France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Je suis monté sur les plus hautes marches des podiums pour le championnat du monde. Mais en fin de compte, pendant, c'est bien. Mais après, il n'y a plus personne.
Je ne sais pas faire du sport simplement juste pour le plaisir. Parce qu'en fait, jusque-là, tout était très planifié. Mais en fait, sur du sport quotidien, sur de l'entretien, il y a plein de choses en fait, qu'on ne maîtrise pas, quoi.
C'est pas un bouleversement énorme, c'est une autre vie, mais je m'y étais préparé. Et je pense que comme toute chose, le succès d'un challenge, c'est de très bien s'y préparer. Moi, je m'étais très bien préparé au passage à l'après-carrière.
À 31 ans, la championne de tennis Caroline Garcia a fait ses adieux cette semaine au tennis professionnel. J'aurais voulu jouer plus, mais le corps n'a pas été d'accord, confie-t-elle. Souffrir comme ça sur le court, je n'en suis plus capable. Est-ce un départ définitif ? Début avril, une autre joueuse française a créé la surprise en revenant sur le circuit 10 mois seulement après avoir officiellement mis fin à sa carrière. « La compétition me manquait », explique Alizé Cornet. « Le fait de me dépasser, d'avoir des émotions sur le terrain, je me suis dit que ce serait cool de faire un dernier tour de piste pour vibrer de nouveau. » Tourner la page est loin d'être évident pour les sportifs de haut niveau. C'est une période à risque, avec des répercussions physiques et psychologiques. Chaque année, ils sont environ 7000 dans le monde à raccrocher les crampons ou la raquette à 35 ans en moyenne. Certains y sont contraints brutalement par une blessure, d'autres préparent leur reconversion longtemps en amont. Mais quand le sport prend tant de place au quotidien, peut-on vraiment anticiper, organiser la transition vers une nouvelle carrière ? Et quand on a tant sacrifié pour atteindre les sommets, peut-on échapper à la chute, au sentiment de vide, au manque ? Peut-on aborder sereinement ce virage vers une nouvelle vie ? La retraite, ultime épreuve pour les sportifs de haut niveau, c'est un reportage signé Guillaume Batin. Bonjour Guillaume.
Bonjour Aurélie.
Vous nous proposez ce reportage un an après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.
Oui, parce que quand on était dans le feu de l'action à commenter sur les chaînes de Radio France en direct toutes ces épreuves olympiques et paralympiques, je savais que certains avaient poussé pour une Olympiade ou une Paralympiade de plus, 3 ans depuis Tokyo qui avait été décalé à 2021 à cause du Covid. Et je savais que certains voulaient absolument pousser les entraînements, pousser leur corps au maximum pour vivre cet événement dont on est encore nostalgique ici à Paris et partout en France. Et puis aussi parce que sur tous les événements sportifs qu'on commente tout au long de l'année, dans les stades de foot, dans les stades de rugby, de tennis, on croise toutes ces gloires. John McEnroe, Boris Becker par exemple, cette année à Roland-Garros, sont là pour commenter à droite à gauche sur des chaînes de télé américaines ou allemandes les internationaux de France. Et on se dit toujours, à part ces moments de commentaires dans leur sport, que sont-ils devenus? Qu'ont-ils fait après? Comment ont-ils vécu ces transitions? Boris Becker, il a fait de la prison avec des détournements de fonds pour des problèmes d'impôts non payés. Il y en a qui sont allés dans des domaines complètement différents. Je pense à Stéphane Guivarch, attaquant de l'équipe de France en 1998, qui est allé après vendre des piscines. Il y a tout un tas de profils très différents. Il y a un truc qui les réunit, c'est qu'après une vie très riche, pleine d'adrénaline, une vie très normée, eh ben, l'après-vie sportive est un basculement difficile à franchir et c'est ça que j'ai eu envie de leur demander de raconter.
Cécile Collinet est notre invitée aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Aurélie, bonjour Guillaume. Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie du sport à l'université Gustave Eiffel et vous participez en ce moment à un vaste projet de recherche sur l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau. Si l'étude est en cours, vous disposez déjà d'éléments que vous partagerez avec nous. Mais d'abord, nous écoutons ensemble le reportage de Guillaume Batin. Il commence à Roland-Garros sur le court Philippe Châtrier par un moment très émouvant. C'était le 25 mai dernier.
Merci la France. Merci Paris. Vous m'avez offert des émotions et des moments que je n'aurais jamais pu imaginer.
Le roi de Roland-Garros, le meilleur joueur de l'histoire sur terre battue, l'Espagnol Rafael Nadal vient dire au revoir à Paris, là où il a marqué de son empreinte l'histoire du tournoi, l'histoire du tennis.
Vous m'avez offert, comme finale de carrière, la possibilité de recevoir la torche olympique de la part de Zizou.
À 39 ans, une page se tourne, fini les entraînements intensifs, fini les voyages, une nouvelle vie commence.
Je ne pourrai plus jouer devant vous. Mais mon cœur et mes souvenirs resteront toujours liés à ce lieu magique et à son peuple.
Passer de la lumière des podiums et des caméras à une vie de père tranquille. Un changement brutal qu'a très mal vécu le champion du monde de cyclisme et ancien maillot jaune du Tour de France, Luc Leblanc.
Je suis Luc Leblanc, j'ai 59 ans. J'ai été coureur cycliste professionnel de 1987 à 1998. J'ai une petite quarantaine de victoires à mon actif chez les professionnels.
Regardez Luc, il a gagné! C'est fini! Il vient ici! Il va remporter un titre mondial 14 ans après Bernard Hinault. Un Français est champion du monde. Luc Leblanc, le Limousin, est en liesse. La France sportive est en liesse. Un Français est champion du monde. C'est un moment historique que nous vivons ici. Luc Leblanc va franchir la ligne.
Je prends ma retraite à l'âge de 32 ans parce que j'en avais marre un petit peu du contexte du cyclisme à cette époque-là. Et puis parce que ma jambe, j'en pouvais plus. Quoi. C'était... un mal constant, tout le temps. Et à un moment donné, il fallait que je prenne une décision. Je ne voulais pas arrêter hein, à 32 ans. J'ai fait 12 ans de carrière, mais j'aurais pu continuer beaucoup plus loin. J'avoue que la reconversion a été très dure, très difficile. Voilà, j'ai eu des trahisons. J'ai tout perdu financièrement. J'avais un genou à terre, deux genoux à terre. Je suis arrivé à un moment donné où j'étais presque à vouloir... quitter cette vie, puis aller voir ailleurs, quoi, rejoindre mon frère Gilles. J'étais dans le questionnement tout le temps, quoi. Et donc, c'était très difficile. Et je pense que ceux qui m'ont sauvé la vie, c'est bien sûr ma famille, mes parents, mon frère, mes sœurs, et puis mon frère Gilles qui était là-haut aussi, puis mes enfants. Donc, voilà, mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais aujourd'hui, je suis heureux. En fin de compte, je me rends compte d'un truc. C'est que dans la vie, il n'y a pas besoin d'avoir des tonnes d'argent sur son compte bancaire. Ce qui compte, c'est de mener une vie belle, honnête et entourée de belles personnes. Et aujourd'hui, je l'ai trouvé. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'il n'y a aucun accompagnement en fin de compte. Aucun. Un sportif de niveau qui a représenté son pays, qui a représenté la France, quoi. Bon, moi, je vous parle en connaissance de cause. J'ai représenté mon pays. Je suis monté sur les plus hautes marches des podiums, surtout pour le championnat du monde. Mais en fin de compte, pendant, c'est bien. Mais après, il n'y a plus personne. Plus personne. Vous pouvez sonner, mais ça ne s'ouvre pas. Et donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau des politiques de comment accompagner les sportifs qui ont fait 12 ans, 15 ans, même peut-être 20 ans de carrière, comment les accompagner ?
Michael Phelps, 23 médailles d'or olympiques, a lui aussi pensé au suicide. Le vide, qui succède à la surdose de natation et de performance, a bouleversé l'équilibre du nageur américain. Il s'était confié en public lors de Demain le sport, organisé à Radio France en 2022.
Bonsoir, je vais parler en anglais et puis il y aura une traduction. It's a huge honor for us. I think everyone in this room is so happy to see you, Michael Phelps.
Je suis tellement content de vous voir, Michael Phelps.
Thank you.
Merci.
I had no motivation
eh bien,
after 2008.
Après 2008, motivation à zéro.
I wanted to stiff arm the sport
et
and push it away.
Je me suis dit non, plus de ce sport, pas pour l'instant. Et en fait, la raison, c'est que j'avais déjà réussi à atteindre mes objectifs. Je m'étais dit, je veux faire quelque chose que personne d'autre n'a fait avant. Et c'est effectivement ce que j'ai fait. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui me reste à faire? Qui suis-je? Où vais-je? Et à ce moment-là,
I lost kind of interest in swimming.
J'ai perdu l'intérêt que j'avais dans la natation.
I kind of faked it the first
je faisais un peu semblant
2008,
pendant un an et demi après 2008, c'est-à-dire en 2009,
kind of,
en 2010.
I was getting by, kind of skating
là,
by.
J'étais
I wasn't
un peu
really going to practice.
À la marche.
I would skip a week,
je
two weeks here and there,
sautais
and then come
une semaine
back
ici et là, puis après je revenais
going
pendant
into
un mois.
The last, I guess,
et puis
year and a half going into
pendant
London,
un an et demi avant Londres, là tout d'un coup, j'ai mis le pied vraiment sur la pédale jusqu'au plancher. Là, j'étais dans ma préparation. Donc, après Londres, moment où j'ai pris ma retraite, c'est là que je me suis dit, il faut que je m'arrête, il faut que je pense à moi. Parce que pendant toute ma carrière, ça n'avait jamais cessé. Chaque fois, c'était vas-y, pendant 23 années d'affilée. Et là, ça m'a permis de réfléchir aux choses. Peut-être qu'il fallait que je me reprenne parce que j'étais crevé, donc j'ai tout envoyé valser. Je suis revenu ensuite, j'ai retrouvé ma concentration, le désir, l'amour que j'avais pour la natation. Et je me suis dit, retournons-y. J'ai appelé Bob, 2h du matin, je crois, 3h du matin. Moi, j'étais côte ouest, il était côte est, donc j'ai réveillé, évidemment. Et je lui ai dit, je crois que je vais faire mon retour. Pendant 5 ans, 6 ans, je me suis entraîné tous les jours, 365 jours par an. Les dimanches, oui. Deux fois, trois fois, parfois, dans la même journée, parce que je voulais absolument faire quelque chose que personne d'autre avant moi n'avait fait. Je devais donc me préparer et voir les choses différemment. Et c'est ça qu'on a fait pendant longtemps.
La transition a été compliquée pour Michael Phelps, car il a plongé dans ce que l'on appelle l'identité exclusive. Un syndrome qui peut conduire à la dépression suicidaire, sur lequel travaille depuis 30 ans le psychologue du sport Makis Chamalidis.
On a vu que, avec notamment le Covid, où des grands athlètes comme Simone Biles, Naomi Osaka et notamment Michael Phelps, ils ont pris la parole pour dire c'est bien les médailles, mais la santé mentale, elle est encore plus importante. Et ce qu'on a observé chez Michael Phelps, il le dit lui-même, à force d'être que sportif 365 jours par an, deux fois par jour, il a négligé le reste de son identité. Et ça lui a coûté cher parce qu'au moment où il a arrêté, et même avant, il ne pouvait pas s'appuyer sur autre chose que le sport. Et ça appauvrit une vie, son caractère. Et ça appauvrit aussi les bases pour se redéfinir après. Après, je pense qu'il a fait un vrai travail sur lui. Et sa thérapie, c'était peut-être ça aussi, de faire un film là-dessus, où il a mis le focus sur des athlètes qui ont réussi, mais qui ont sombré dans la dépression, dans le burn-out, dans la tentative de suicide, et pour l'un, notamment dans le suicide. Donc, c'est un sujet à ne pas prendre à la légère.
As the novel coronavirus continues to spread worldwide from its starting point in Wuhan, China.
Mental health was something I'd been thinking about a lot.
J'ai toujours beaucoup pensé à la santé mentale. Les Jeux 2020 approchant, les premiers auxquels je n'irai pas depuis 11 ans, je me suis mis à repenser aux hauts et aux bas et à quel point j'avais failli tout perdre. Quand les Jeux ont été reportés, j'ai repensé à la santé mentale des athlètes qui avaient travaillé dur et devaient maintenant tout reprendre depuis le début. On aurait dû regarder les Jeux tous ensemble. Au lieu de cela, j'aimerais vous parler du parcours pour atteindre ce rêve, vous dire que nos histoires sont faites d'autres choses depuis des années.
There and back.
Michael Phelps qui est en train d'écrire l'histoire, devenir le premier nageur à remporter 4 titres olympiques dans 4 jeux différents sur une épreuve. Le fils de Poseidon.
Nous avons perdu beaucoup trop d'athlètes olympiens au suicide et j'aimerais renverser la donne. J'aimerais vraiment aider les personnes qui sont aux prises avec des difficultés pour qu'elles aient accès à l'aide dont elles ont besoin et qu'elles méritent. Je ne veux plus perdre d'autres olympiens, d'autres athlètes. Si je peux aider des personnes, c'est ce que je souhaite vivement de tout cœur. Je préfère sauver une vie ou des vies et avoir l'occasion de sauver une vie que de remporter une prochaine médaille d'or. C'est plus important. Vous avez tout à fait raison. C'est plus important, ça. Et pensez-vous que votre voix va aider à faire bouger les lignes? Écoutez, je l'espère, mais si les lignes ne bougent pas comme je le souhaite, eh bien, il faudra que je trouve une autre manière de m'y prendre. Peut-être retourner à la case départ et réfléchir à une nouvelle façon façon de cartographier mon projet. C'est un peu ce que j'ai fait durant ma carrière. Et je peux utiliser certains des instruments, des ressources qu'on m'a donné dans ma carrière de nageur. Et j'espère que ces outils me permettront de les mettre, les appliquer à la vraie vie. Vous savez, vous avez été une source d'inspiration. Et je crois que tout le monde ici est vraiment ravi d'avoir pu écouter Michael. Voilà la fin de notre entretien. Merci, Michael. Merci.
Champion de France et vice-champion paralympique de Cécy Foot, Yvan Wandji a manqué le grand rendez-vous de sa fin de carrière internationale, les Jeux de Paris 2024. Il s'est rompu les ligaments croisés du genou gauche avec une lésion au ménisque, une blessure qui l'a privé de la médaille d'or décrochée par l'équipe de France et qui a bouleversé sa vie d'athlète et sa vie d'homme.
Bonjour, je m'appelle Yvan Wandji, je suis joueur de Cécy Foot et salarié du groupe d'ICLS. Et là, nous sommes actuellement chez moi, à Sevran.
C'est l'heure de partir au travail ?
Effectivement, c'est l'heure d'aller au travail, c'est l'heure d'aller au bureau et de rejoindre les collègues.
Eh ben, on y va.
Allez. J'ai juste ma canne à prendre et puis c'est bon. Je te laisse passer devant. Donc là, on va se diriger vers la gare pour aller prendre le train. Et on va descendre à Gare du Nord, puis on va faire la correspondance. Donc c'est le chemin que je fais donc, tous les jours. Je prends toujours le trottoir de gauche quand on est face à la gare. Hop. Là j'arrive sur le trottoir. En fait, avant de perdre la vue, j'aimais le sport. J'en faisais déjà. Et à l'âge de 9 ans et demi, quand j'ai perdu la vue en CM1, j'ai été donc dans une école spécialisée où il a fallu que je m'adapte à mon handicap, que je me forme, que je poursuive ma scolarité. Et du coup, j'ai eu des enseignants qui m'ont formé sur plein de choses, sur l'autonomie. Et donc, par l'intermédiaire d'un enseignant que j'avais qui est non-voyant, qui s'appelle Julien Zelila, et c'est lui qui a implanter la pratique du Cécy Foot en France. Et donc, je joue au club de Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne. Et en parallèle, donc, j'ai joué en équipe de France de 2010 à 2024. Voilà. On a été aux Jeux Paralympiques. On a disputé 2 Jeux Paralympiques. En tout cas, moi, j'en ai disputé 2. En 2012, on a été en finale. On a perdu en finale contre le Brésil. Ça a été une très belle expérience et ça reste un très beau souvenir.
Vice-champion olympique, on a été, paralympique.
Effectivement, on a été médaillé d'argent lors des Jeux paralympiques à Londres en 2012. Et on a aussi disputé les Jeux paralympiques en 2021 au Japon. On n'a pas eu les résultats qu'on espérait, mais ça reste et ça a été une très belle expérience. Voilà, et du coup, ça a permis au groupe de travailler encore plus. Et l'équipe de France, donc les coéquipiers, ont remporté les Jeux il y a quelques mois à Paris.
Je proclame ouverts les Jeux de Paris.
Chers amoureux des Jeux en France et partout dans le monde, bienvenue à Paris. Rassurez-vous ce soir, pas de prise de la Bastille et pas de guillotine. Car ce soir débute la plus belle des révolutions. La révolution paralympique.
Évidemment, la vasque des Tuileries, la tour Eiffel qui scintille, la place de la Concorde qui attend, qui se tait, mais qui a applaudi au moment où la vasque s'est embrasée. Maintenant, il va falloir s'envoler, mademoiselle.
Ça y est, ça va pas tarder, on va larguer les amarres.
C'est marqué ! C'est marqué ! L'équipe de France de Cécy Foot décroche la médaille d'or aux Jeux paralympiques !
Moi, je me suis malheureusement blessé lors d'un tournoi, donc quelques mois avant la compétition, je me suis blessé en mars et le tournoi a eu lieu fin août. Et donc du coup, malheureusement, j'ai pas pu prendre part à la fin des sélections. C'est un traumatisme au quotidien, c'est un deuil, c'est plus qu'une frustration, c'est un deuil. C'est un deuil de ne pas avoir pu disputer les Jeux à Paris. Je dirais même pas de les avoir gagnés parce qu'on ne savait pas que l'équipe allait remporter les Jeux. Et voilà, c'est douloureux tous les jours. J'y pense tous les jours, j'y pense en permanence en me disant si le sort avait été autre, l'histoire aurait été différente et ma vie aurait été complètement différente avec cette participation aux Jeux déjà mentalement. J'aurais été heureux, comblé, aux anges. Et puis, si j'avais eu la chance de remporter cette médaille d'or avec l'équipe, ça aurait été le bonheur ultime. Mais malheureusement, j'ai pas pu. Voilà, j'y pense au quotidien. C'est très difficile moralement, c'est très, très compliqué mentalement. J'en développe un complexe en me disant que voilà, je suis plus le sportif idoine, adéquat et... c'est pas en tout cas l'issue que j'espérais.
Où sommes-nous, Yvan ?
On arrive au bureau. Donc là, on est au rez-de-chaussée. On va accéder donc à la barrière. Là, il y a une seconde barrière. Et ensuite, on va monter. Et là, ça sera bienvenue dans le groupe d'ICLS. Salut.
Ça va ?
Salut, ça va et toi ?
Ça va.
Attention. Bonjour.
Je la laisse comme ça.
Oh, non, là, c'est bon. De base, je suis quelqu'un de sensible, mais je remarque, je constate en tout cas, que je développe une hypersensibilité depuis quelques semaines, quelques mois, et je suis énormément dans la réflexion. Sur moi, sur mon avenir, sur qui je suis, vers où je vais, avec qui, quelle force j'ai aujourd'hui. Donc je me remets énormément en question, je doute même. Voilà, je suis dans une grosse phase de doute, voilà, sur le sport, sur plein de choses. Mais je sais que j'ai un équilibre, c'est l'équilibre familial, très important pour moi, mon entourage. Et j'ai une vraie force, une vraie stabilité. C'est mon emploi, c'est ma vie professionnelle. Ça me permet de conserver, de garder le cap et ouais, de conserver une boussole vers où aller avec une bienveillance.
Le fait de travailler, d'avoir une activité salariée, est-ce que ça permet de digérer cette fin de carrière internationale qui a été difficile, d'avoir la tête ailleurs un petit peu ?
Effectivement, ça me fait énormément de bien voilà, d'aussi penser à autre chose et puis allier vie sportive et vie professionnelle. En tout cas, pour moi, c'est essentiel. Et ça me permet aussi de préparer, d'anticiper ma reconversion. Et qui me permet de mettre voilà, en avant mes compétences.
L'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, est une institution du sport de haut niveau en France. C'est dans cet espace de 28 hectares, en plein cœur du bois de Vincennes, que la crème du sport français vient s'entraîner et se préparer aux grandes compétitions internationales.
Allez Axel,
et c'est parti.
Aujourd'hui.
Allez Axel, la France est derrière vous.
Des athlètes en fin de carrière ou déjà à la retraite y reviennent régulièrement comme le gymnaste Axel Ogis.
Le demi-tour, ça l'équilibre, le temps de vente, la sortie. Allez Axel, double avant demi-tour. Oui,
ouais, super. Bravo,
je m'appelle Axel Ogis, j'ai 34 ans et aujourd'hui on est à l'INSEP, l'Institut National du Sport, pour voir Gwendoline Plisson qui m'accompagne quotidiennement pour m'aider à la réinsertion après une carrière de sportif de haut niveau.
Entrez, bonjour Axel.
Bonjour, ça va ?
Ça va. Alors ce voyage à Bali, ça s'est bien passé ?
Super. Franchement, c'était sympa. C'était dépaysant. C'était rafraîchissant. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai surfé. Ah, ça, c'était cool, franchement.
Ça t'a permis de faire une parenthèse parce que je pense qu'avant de partir, c'était un peu difficile. Le marché de l'emploi en ce moment, c'est quand même pas à gagner. Donc, tu te sens comment maintenant ?
Bah, écoute, ça va. Je suis, on va dire, batterie à fond pour pouvoir repartir de plus belle, pour pouvoir essayer de maximiser mes chances pour trouver un emploi qui me convient.
Et quelle impression as-tu finalement quand tu te retrouves face aux recruteurs, puisqu'on a quand même fait des mises en relation avec plusieurs entreprises et des grands groupes. Tu as travaillé pour Accor aussi pendant la période des Jeux Olympiques. Est-ce que ton parcours de sportif, tu as l'impression que ça les intéresse? Tu as l'impression que c'est un blocage? Tu le ressens comment?
On va dire que j'ai une image forte pour ça. C'est un peu comme un poisson qui brille dans l'eau. Donc, ça attire. Mais c'est ce qui fait, je pense, que ça capote à la fin. Je m'explique. Ils sont intéressés. Ils trouvent ça très intéressant. Ils disent « Oh, ok, cool, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. » Ils se projettent assez rapidement. Mais dès qu'on rentre dans le concret, finalement, j'ai l'impression que « Ah, en fait, j'ai pas pensé à ça, mais va te falloir te former parce que t'as pas forcément travaillé comme une personne lambda. Ah, ok, donc... t'as 34 ans, du coup, t'es pas junior, mais t'es un peu junior, t'es intermédiaire, etc., etc. Et donc, ça les fait revenir sur le « Ah, en fait, potentiellement, c'est peut-être pas une bonne idée, t'es pas forcément employable à 100% directement en claquant des doigts. » Et ça, c'est un problème et c'est un blocage. Mais ça, je pense que c'est plus une... c'est plus une problématique de la société française. On sait pas comment prendre des athlètes qui ont fait 20 ans de carrière, globalement, parce que la gym, c'est un sport où on commence tôt. Donc, moi, j'ai commencé à 11 ans à m'entraîner 30 heures semaine. Tu finis à 30 ans, 31, 32, suivant les âges. Et ben, en fait, on se dit, mais en fait, comment ce gars-là, je vais le faire fitter dans ma boîte? En France, on sait pas faire. Il y a que des cas très rares, comme, par exemple, un Teddy Riner, un Florent Marnedou. Eux, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Parce que, en fait, finalement, on va faire l'effort pour eux, parce que ce sont des stars. Mais tous les autres, c'est plus compliqué.
C'est tout le travail qu'on fait en général avec les entreprises, c'est qu'on est sur un travail d'acculturation. Pour comprendre à quoi peut correspondre un parcours dans lequel effectivement il y a eu ce qu'on appellerait en termes de RH et de recrutement des trous, des parenthèses, des moments où on n'a pas travaillé en étant salarié. Et on leur explique que de toute façon, le salariat n'est pas effectivement le seul moyen d'obtenir de la compétence et que la totalité du parcours du sportif de haut niveau est jalonnée de moments où vous avez dû gérer la communication avec des sponsors, vous avez dû faire des dossiers de presse, vous avez dû effectivement répondre à des journalistes, ou vous avez dû vous-même organiser des compétitions, participer à la logistique. Tout autre événement qui fait qu'à un moment donné, vous avez fait de la gestion de projet, de la communication, pour certains, de l'événementiel. D'autres se sont concentrés sur le sport, mais ils ont été dans l'éducation, dans l'animation, dans la transmission, donc vraiment sur le travail, sur la pédagogie. Donc, tout est dans la discussion et l'échange qu'on peut avoir individuellement avec les RH et avec les entreprises qu'on a derrière.
Sur votre tableau derrière, dans votre bureau, vous avez une phrase « Ceux qui réussissent, ce sont ceux qui se sont toujours relevés ». C'est une phrase d'un escrimeur français. Axel, quand vous voyez ça, vous êtes habitué, vous, après une blessure, après un échec dans une compétition, à vous relever. C'est un nouveau défi, finalement, trouver un boulot en dehors du monde du sport.
Ah oui, clairement, c'est un nouveau défi. C'est vrai que, surtout la gymnastique, c'est un sport où on se blesse énormément. Donc, globalement, oui, on va dire que ça fait partie du jeu. Après, ce qui est difficile, c'est juste de se dire, ok, on devient comme tout le monde. Ça, c'est plus difficile parce que depuis tout jeune, tu fais des choses, on va dire, extraordinaires, même si je suis pas fan de ce mot-là, parce qu'on a travaillé pour. Donc, si tu travailles pour quelque chose, ça devient plus extraordinaire, ça devient normal. Mais ouais, c'est pas si facile et c'est une autre forme de challenge, en fait. C'est juste différent, quelque chose qu'on n'a pas appris. C'est portes qui se ferment très facilement, sans explication. Tu sais pas vraiment pourquoi et t'arrives pas à avoir un feedback. Moi, demain, dans le sport... je suis pas bon en compétition, directement j'analyse. C'est concret, j'ai fait un temps, un chrono, un score. Mon entraîneur va dire ça c'était pas bien, ça c'était pas bien, ça c'était bien. Le recrutement, c'est pas trop ça, c'est malgré votre super compétence, on va pas vous donner le poste. Globalement, c'est ça. Et tu reçois ça un dimanche, tu sais très bien que c'est un ordinateur, etc., etc. Et tu te dis mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça doit se passer, mais ça se passe comme ça.
Vous le vivez comment ça? Ces échecs à répétition dans un milieu qui n'était pas le vôtre avant, dans un nouveau milieu comme ça, en se disant « j'étais performant et là, je le suis pas ».
En vrai, globalement, au début, je disais « ça va, c'est normal, je verrai, j'avais le temps ». Mais là, ça fait quand même un an et je me dis « ça m'énerve, je suis très poli là, vraiment ». Parce que en fait, moi, j'ai l'impression qu'on me donne pas de chance. Tu me juges sur un bout de papier, ça, c'est dur.
Depuis quelques mois, l'INSEP a également mis en place un programme destiné aux athlètes en fin de carrière.
Ils viennent y trouver de l'aide et des conseils pour accompagner leur corps et leur esprit à la nouvelle vie qui les attend.
Alors Nicolas Prévost, moi je suis responsable de l'unité d'accompagnement à la performance ici à l'INSEP. Et aujourd'hui on est à la Halle Maigro sur l'espace de réathlétisation.
Vous êtes aussi chargé de développer ce nouveau programme qui s'appelle désathlétisation. C'est un mot qui parle pour les athlètes qui vont ou ont pris leur retraite. C'est quoi l'idée ? C'est de passer d'un corps d'athlète de haut niveau à un corps de monsieur tout le monde et de vivre ça correctement, physiquement et mentalement.
Alors oui, l'idée c'est de prendre ici les athlètes sur le dispositif, donc c'est à Épilogue Bleu, je crois que ça a été nommé ce dispositif, donc c'est d'accueillir les sportifs sur différentes dimensions. Et l'idée, comme vous le disiez, c'est d'accompagner les athlètes sur l'après-carrière. On sait que les sportifs, quand ils sont en carrière, ils ont quand même une grosse charge de travail sportive tout au long de la journée et de l'année qui est organisée. Là, on passe le mur et on passe sur une vie qui va plutôt être sédentaire pour certains. Et donc, on s'est aperçu qu'il y avait des sportifs qui allaient avoir un manque derrière sur la partie sportive. Donc, on s'est dit, ça serait bien qu'on puisse leur proposer de continuer à pouvoir s'entraîner, progressivement de diminuer leur charge d'entraînement pour pouvoir ne pas couper du jour au lendemain toute cette activité physique et puis de rester bien dans leur tête et dans leur corps.
Pour certains, ça c'est compliqué de passer le mur, comme vous dites.
Ouais, je pense que pour certains c'est compliqué, même s'ils ont pour la plupart anticipé cet arrêt. Le passage de la vie de sportif de haut niveau à un profil de personne sédentaire, je suis pas sûr que tout le monde soit capable de vraiment de l'anticiper. Donc au sein de la cellule, oui, on va parler de la partie d'athlétisation. On a des collègues qui vont aussi pouvoir les accompagner sur la partie diététique. Et puis on teste les sportifs quand ils arrivent ici sur une partie de tout ce qui est prophylactique, donc prévention de blessures. Donc l'entrée pour nous, elle est là, c'est de faire un bilan sur leur état physique fin de carrière pour qu'on puisse retravailler s'il y a besoin sur les bobos qui ont pu être engendrés sur toute leur carrière sportive. Et puis leur permettre au mieux de pouvoir continuer une vie sans ces tracas de blessures ou de bobos qu'ils ont pu avoir. L'idée, c'est de les accompagner. Là, la partie physique, ça fait partie des choses qu'on prend en charge, mais les athlètes qui viennent chercher aussi, c'est de pouvoir continuer à échanger avec des athlètes. Quand ils viennent sur le plateau ici, ils vont voir des athlètes qui continuent à se préparer pour des compétitions. Et il y a un réel échange qui peut se faire entre eux sur l'expérience de ceux qui arrêtent et puis les besoins des jeunes qui sont là à essayer de performer.
Allez Marie, bien négocié.
Et parmi les athlètes qui suivent ce programme, il y a l'octuple championne paralympique de ski alpin, Marie Bochet.
Yes. Marie Bochet qui réussit le meilleur temps de la deuxième manche. Son troisième titre paralympique, le septième pour cette immense championne.
Bonjour, je m'appelle Marie Bochet, j'ai gagné 8 médailles d'or en paraski alpin aux Jeux paralympiques et je suis retraitée de ma carrière sportive depuis un peu plus d'un an. J'ai participé à mes premiers Jeux en 2010, à mes derniers en 2022 et j'ai choisi de poursuivre jusqu'en 2024 pour terminer cette belle aventure correctement. En fait, il y a souvent une attention qui est portée au double projet professionnel et sportif de l'athlète. Mais souvent, on oublie un petit peu le spectre psychologique, physique de cette fin de carrière et de ce que ça entraîne. Et donc, en fait, ce programme prend conscience de ça et en fait prend soin de ça aussi. Et c'est vrai que souvent, les athlètes, on leur donne un peu des orientations professionnelles, on les oriente vers des cursus de formation, mais on en oublie un petit peu ce qui se passe dans leur tête et le fait qu'ils ont sans doute besoin d'aide. Et là, un an après post-carrière, je me rends compte aussi que le sujet dont on parle très peu, c'est l'évolution du corps. C'est vrai que quand on a été à haut niveau pendant... alors moi, j'ai fait 15 ans d'équipe de France. Notre corps, c'est vraiment notre outil de travail. C'est quelque chose qui est très fort pour nous. Et en fait, forcément, moins d'entraînement. Du coup, ce corps se transforme. Et du coup, notre estime personnelle passe par là aussi. Et donc, c'est vrai que... il y a cette transition physique qui n'est pas évidente à vivre. Et c'est vrai que souvent, de ne plus avoir d'objectifs, ça entraîne une petite démotivation sur ces programmes-là. Et puis surtout, en fait, on ne sait pas faire. Moi, je me suis quand même retrouvée à me dire, mais en fait, je ne sais pas faire du sport simplement juste pour le plaisir. Parce qu'en fait, jusque-là, tout était très planifié. Mais en fait, sur du sport quotidien, sur de l'entretien, il y a plein de choses en fait, qu'on ne maîtrise pas, quoi.
C'est quoi l'enjeu ? C'est le regard qu'on a sur son corps, c'est la perte musculaire, c'est la prise de poids, c'est éventuellement des blessures ?
C'est tout ça. Non, l'enjeu, c'est vrai que déjà, il y a l'amour qu'on porte à notre image, l'estime de nous-mêmes, je crois que c'est très important. Effectivement, on prend du poids parce qu'on se désathlétise, donc Il y a un peu cette transition aussi, d'ailleurs nutritionnelle, qu'il faut faire. Donc il y a aussi ce spectre-là qui est étudié dans le programme sur un accompagnement sur l'alimentation, parce qu'en fait c'est vrai qu'on est, on s'alimente énormément en tant qu'athlète parce qu'on a des dépenses qui sont supérieures à la moyenne. Forcément on prend un peu de poids. Donc c'est un petit peu tous ces sujets-là qu'il faut reprendre un petit peu en main et en fait reconstruire en fait un nouveau rythme, quoi, un nouveau fonctionnement. Et c'est quelque chose qui est pas si évident.
Concrètement, à l'INSEP, ça se passe comment? Vous y allez avec quelle récurrence? Vous rencontrez qui? Vous faites quoi?
Alors, il y a plusieurs sujets. Donc, on rencontre une psychologue à qui en fait on confie un petit peu notre situation et en fait là on va, qui nous oriente tout le monde vers un suivi psychologique. Il y a un bilan. En fait, on fait surtout des bilans au début, bilan psychologique, bilan médical, bilan physique aussi. Et donc en fait, c'est refaire un point. Hier, justement, j'ai fait mon bilan médical et en fait, je me suis dit, mais je sais.
Ça va?
Ça va? Mais je voyais le médecin et je lui dis, mais en fait, je sais même pas comment est-ce qu'on fait un suivi médical classique. Donc, c'est des choses très, très basiques, très simples pour des personnes qui ont cette habitude-là. Mais en fait, nous qui avons toujours été en fait, dans une programmation, en fait, c'est ça. En fait, quand on quitte notre carrière, on quitte cette programmation-là de vie. Quoi.
Apprendre à devenir quelqu'un de normal, c'est ça?
Et autonome, du coup. Non, mais c'est vrai. Et on est un peu dans une bulle en tant qu'athlète de haut niveau. On est très surveillé, tout le monde est très attentif à nous. Et en fait, du coup, on en oublie un petit peu qu'on est aussi le maître de nos vies. Et je crois que l'essentiel de ce programme, c'est ça aussi, c'est de prendre soin de l'humain et pas que du champion. Et en fait, pendant nos carrières, je crois qu'on prend surtout soin du champion et on ne prend pas vraiment soin de l'humain, de son équilibre personnel et sportif. Et en fait, là, c'est retrouver cette autonomie dans la prise en charge de notre propre personnalité et individualité, je crois.
Makis Chamalidis, le psychologue du sport.
Moi, je trouve que quand on veut vraiment parler des sportifs de très haut niveau, ils ne sont pas si équilibrés que ça. Bien sûr, aujourd'hui, j'entends la performance par le bien-être. Moi, je veux bien, hein, mais quand ils font monter sur l'Everest, on ne peut pas y aller avec un mood peace and love. Il faut avoir le couteau entre les dents. Il faut avoir un pourquoi très, très fort, des motivations profondes. Il faut être très, très bien entouré. Et parfois, on devient, à l'image des Nadal, des Djoko, des gens qui sont obsédés, je dirais même qu'ils sont en mission. On ne peut pas aller sur le toit de l'Everest si on n'est pas investi d'une mission. Et souvent, ça vient aussi de notre histoire. C'est quelque chose de très viscéral qu'on a dans le ventre. Et donc, peut-être on pourrait dire, c'est des gens qui ont besoin de trouver un peu plus d'équilibre dans ce déséquilibre qui est le sport de haut niveau. Et notre rôle, c'est de les aider, de les accompagner et de leur montrer déjà pendant leur carrière l'intérêt de lever la tête et de relativiser, de penser aussi à autre chose qui peut leur procurer des sensations, du plaisir. C'est notre rôle. Alors, contrairement aux personnes qui arrêtent leur travail pour partir à la retraite, plus tard dans la vie, le sportif, il va s'arrêter à 30, à 35 ans, un peu avant, un peu après. Et il y a aussi le corps qui entre en jeu. C'est que pendant des années, son corps a été son outil, sa tête aussi évidemment, mais j'ai vu des nageurs s'arrêter et se laver les mains 30 fois par jour parce qu'ils étaient en manque. C'est aussi une addiction, hein, finalement, le sport. J'ai vu des sportifs qui ne se retrouvaient plus parce que changement de statut. Ah, je ne suis plus sur la liste des mails par la fédération. J'ai pas le même statut, j'ai pas les mêmes bénéfices secondaires. Et tout d'un coup, ah ouais, maintenant je dois m'occuper moi-même de trouver un kiné. Bon, le réseau, il va encore aider, mais finalement, les gens qui étaient proches, l'entraîneur, le manager, ils peuvent plus faire grand-chose pour vous. Ils vont continuer à faire leur travail. Or, vous allez vous retrouver seul, vous allez rechercher du sens. Pourquoi me lever le lundi matin ? Si c'est pour aller dans un bureau, or mon corps me dit je comprends pas, pendant des années tu m'as dit allez on y va et maintenant tu me donnes plus la même nourriture, tu t'entraînes plus, et parfois la prise de poids de 2-3 kilos peut déjà être un drame existentiel pour certains parce qu'ils se retrouvent plus. Donc notre travail c'est de les aider à reconstruire leur passé, à comprendre d'où ils viennent, mais aussi à redonner du sens, des objectifs, parce que c'est ça qui leur parle, à court terme, à moyen terme, pour se recréer. Mais ça ne peut pas se faire sans un vrai travail sur soi. On parle beaucoup du travail de deuil. Est-ce qu'on peut faire le deuil d'une carrière? Or, tout le monde vous rappelle quotidiennement, « Ah, t'as fait ci, t'as fait ça. » C'est plus facile à dire qu'à faire.
Les athlètes de haut niveau sont fragiles, mais certains parviennent à vivre cette transition dans la douceur et parfois même dans le bonheur. Nicolas Karabatic, triple champion olympique et quadruple champion d'Europe et du monde de handball.
Karabatic, la lucarne !
Nicolas Karabatic a tout gagné en club et en équipe de France. Il a poussé sa carrière jusqu'au bout, jusqu'à Paris 2024, à l'âge de 40 ans.
C'est pas un bouleversement énorme, c'est une autre vie, mais je m'y étais préparé. Et je pense que comme toute chose, le succès d'un challenge, c'est de très bien s'y préparer. Moi, je m'étais très bien préparé au passage à l'après-carrière. J'ai eu la chance de vivre une carrière incroyable jusqu'à 40 ans, et j'ai aussi eu la chance de vivre une dernière saison en sachant que ça allait être ma dernière, et qui a été rythmée par tellement de grands moments avec mon club du Paris Saint-Germain, avec l'équipe de France, on était champion d'Europe. Au mois de janvier, où derrière on a vécu ces Jeux Olympiques, même s'ils sont terminés par une très grosse déception. Voilà, moi, le fait d'avoir pu vivre tout ça, d'avoir aussi appris à être positif et à ne plus être heureux que si j'étais champion, que je gagnais tous mes matchs, ça m'a beaucoup aidé aussi en après-carrière à travailler voilà, sur le mental, sur l'état d'esprit, à être positif et à me plonger voilà, dans cette nouvelle vie avec beaucoup d'excitation et beaucoup de bonheur.
Nouvelle vie très riche, j'ai l'impression. La liste de projets et d'intérêts, de centres d'intérêt est très, très longue.
Oui, je voulais ben justement me laisser du temps et pas me replonger tout de suite, par exemple, dans le monde de l'entraînement, dans le monde pro du handball. Je voulais aussi voir ce qu'était une après-vie sans handball et aussi comprendre comment ben, tout ce que j'avais appris pendant ma carrière, mon expérience et mes acquis, mes médailles et les hauts, les bas, ben comment je pouvais le transposer et le transmettre et l'utiliser sainement dans différents domaines, que ce soit auprès des jeunes, à travers des stages de handball que j'ai avec mon frère, à travers notre fonds de dotation, à travers des actions caritatives, à travers un livre et une bande dessinée qu'on a sorti aussi avec mon frère, aussi comment utiliser toute cette expérience dans d'autres domaines, dans le monde de l'entreprise par exemple, à travers des interventions d'entreprise, mais aussi du conseil auprès de dirigeants. J'investis aussi dans des startups à impact positif, environnemental ou au niveau de la santé, et où je conseille aussi les dirigeants et les fondateurs de ces startups. Et donc tout ça, c'est très enrichissant parce que voilà, je viens sortir de ma zone de confort et aller vers d'autres mondes. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de points communs et qu'on s'enrichit tous les uns les autres et qu'on s'apporte énormément de positif. Donc voilà, c'est passionnant et j'apprends, je me fais plein d'expériences. J'apprends aussi à me connaître et à savoir ben, ce qui me fait plaisir, ce qui résonne en moi. Et ça, c'est beau parce que ben, pendant 24 ans, je me suis mis juste dans le handball avec l'intention de gagner, d'être le meilleur. Et aujourd'hui, je peux vivre plus sereinement, apprendre aussi à me connaître, à voir ce qui me passionne au-delà du ballon rond qui colle.
La retraite, ultime épreuve pour les sportifs de haut niveau, un reportage de Guillaume Batin avec Alison Vicrobeck à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Cécile Collinet, professeure de sociologie du sport, est l'invitée de Grand Reportage. Que deviennent les sportifs de haut niveau? C'est la question sur laquelle vous travaillez au sein de l'équipe de recherche en sciences du sport de l'université Gustave Eiffel. Dans le cadre de ce projet de recherche, de nombreux anciens sportifs sont interrogés aussi bien sur leur milieu social, leur parcours scolaire que sur l'emploi qu'ils occupent ou qu'ils cherchent encore aujourd'hui. Ce qui fait que vous avez beaucoup de matière. Alors, le reportage de Guillaume n'avait pas vocation à être exhaustif, mais est-ce qu'il fait écho aux témoignages que vous avez recueillis de votre côté? Et je pense en particulier au sentiment de solitude, voire d'abandon qu'on a pu percevoir à plusieurs reprises dans le reportage, comme par exemple le cycliste Luc Leblanc.
Oui, tout à fait. Merci pour ce reportage. On voit tous les ingrédients, toutes les caractéristiques de la fin d'une carrière, hein, tout ce qui intervient et qui est très perturbant pour le sportif et qui nous a été livré aussi dans les différents entretiens que nous avons menés. Et on voit aussi quels sont les éléments qui impactent, hein, une suite réussie, une reconversion réussie. Alors, pour nuancer peut-être un peu, hein, dans les résultats quantitatifs que nous avons sur à peu près 2000 répondants au questionnaire que nous avons fait passer, il y a 35% des athlètes qui déclarent qu'ils ont eu une transition après leur période sportive difficile, délicate et douloureuse, en fait. Voilà, donc un gros tiers, en fait. Et dans les entretiens que nous avons faits, on retrouve exactement, hein, les ingrédients qui ont été évoqués par les 7 témoignages du reportage sur lesquels je peux revenir si vous le souhaitez.
Bah, ce qui est frappant en tout cas, c'est que pendant leur carrière, les sportifs de haut niveau sont très entourés, très cadrés et d'un coup, tout ça disparaît.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est perturbant, ça apparaît tout à fait explicitement dans les témoignages, hein. C'est déjà la fin d'une passion aussi, hein. C'est-à-dire que quand on vit dans un univers de passion et que cette passion s'arrête, c'est très très difficile, très difficile à vivre. C'est aussi la transformation du réseau relationnel, hein, parce que si on dit qu'il y a une identité sportive exclusive, il y a aussi une socialisation sportive exclusive qui a été construite depuis l'enfance. Et en fait, ça, c'est très perturbant parce qu'on perd, comme dans le processus de retraite, hein, une espèce de mort sportive, en fait. C'est pas toujours le cas, hein, mais souvent. Il y a aussi le fait que les sportifs sont très entourés, très cadrés. Leur emploi du temps est complètement pris en charge. Et d'ailleurs, ce que disait par exemple Marie Bauchet, c'est on ne sait pas faire. On ne sait pas s'occuper de nous, même sur le plan physique. Vous voyez, donc c'est tout à fait surprenant. Et puis, il y a cet emploi du temps. Hein, en moyenne, les sportifs s'entraînent 23 heures par semaine. Hein. On a vu le gymnaste qui nous disait 30-35 heures par semaine. Donc, un emploi du temps qui est complètement pris par la pratique. Et tout ça, d'un seul coup, ça crée un vide très important qui peut déboucher sur de la dépression ou sur des idées suicidaires, comme ça nous a été évoqué par notamment le parasportif. Voilà.
Alors, l'identité sportive exclusive qui était évoquée dans le reportage au sujet de Michael Phelps, c'est un phénomène courant?
C'est un phénomène courant parce que l'univers sportif, c'est quand même un univers qui encadre et qui... amène les jeunes, enfin très jeunes, dans des structures spécialisées qui les éloignent parfois de leur famille, dans des sports-études, dans des centres d'entraînement comme à l'INSEP ou ailleurs. Donc en fait, il y a une espèce de rupture avec les socialisations habituelles de la jeunesse qui ne se fait que dans le monde sportif, ce qui est d'ailleurs favorable à un certain nombre d'abus, hein, dont on a pu parler. Par ailleurs. Donc oui, c'est un phénomène très fréquent. Hein. C'est l'organisation sportive se veut assez exclusive.
Oui, en fait, c'est difficile de se faire des amis en dehors du sport. La vie de famille, c'est pas toujours évident, à moins que le conjoint ne soit justement sportif, oui. Voire coach sportif. Donc il y a beaucoup aussi... c'est un univers finalement qui est...
Oui, c'est un univers assez fermé, mais on voit aussi dans les témoignages à quel point les soutiens familiaux sont fondamentaux, hein, dans cette période de transition et dans les périodes difficiles. C'est ce que disent de nombreux athlètes interrogés dans le reportage. Et ça, c'est fondamental.
Alors, l'arrêt de la carrière sportive est choisi par certains, subi par d'autres. Est-ce que cette cause de l'arrêt a des conséquences majeures sur la suite ou pas forcément?
Oui, tout à fait. Ça a été assez bien documenté dans la littérature. Hein. L'arrêt contraint ou soudain par exemple une blessure, ça rend, comment dire, l'après, hein, l'après pratique sportive beaucoup plus délicat, beaucoup plus délicate à penser et à organiser. D'autant plus s'il n'y a pas eu d'anticipation, parce que quand même, si vous, enfin, c'est ce qui ressort aussi hein, des témoignages, l'idée clé, c'est quand même l'anticipation de la fin. Mais parfois, quand la fin est brutale, pour des raisons différentes, hein, ça peut être une baisse des performances aussi, une exclusion des équipes performantes et des staffs de compétition ou par une blessure éventuellement. À ce moment-là, quand ça n'a pas été anticipé, eh bien, il y a une espèce de vacuité qui est extrêmement difficile à gérer pour les athlètes.
Et puis quitter le haut niveau, c'est descendre de son podium pour se retrouver au même niveau que Monsieur Tout-le-Monde. On entendait notamment l'exemple du gymnaste Axel Ogis en pleine recherche d'emploi et qui découvre que quand on dépose une lettre de candidature, on peut recevoir la réponse standard sans la moindre explication.
Exactement. Bon, devenir Monsieur Tout-le-Monde, c'est très dur quand on a vécu dans l'exceptionnalité sportive où tout un staff est organisé autour de soi et où on vit des émotions extraordinaires. Hein. Donc ça, c'est très difficile à négocier. Ensuite, transférer les compétences qu'on a eues en tant que pratiquant de haut niveau dans le monde de l'entreprise, c'est quelque chose qui est difficile et qui est pas vraiment bien rodé et pensé en France. Et d'ailleurs, les témoignages, les récits que nous avons témoignent du fait que quand on veut s'investir en dehors de la sphère sportive, eh bien, les compétences qu'on a acquises, l'expérience qu'on a acquise en tant que sportif de haut niveau n'est pas très valorisée. Il y a quand même des exceptions avec des parcours extrêmement brillants. On a eu beaucoup de ministres des sports qui sont des anciens athlètes de haut niveau. Il y a une reconversion dans le monde politique de certains, mais c'est à certaines conditions. Il y a l'exposition médiatique compte beaucoup dans la suite de la carrière et la capacité à rebondir. C'est ce que dit Nicolas Karabatchik, c'est-à-dire que lui, il a de multiples projets, comme Tony Parker, parce que aussi ce sont des sportifs qui ont été ultra médiatisés, et donc c'est beaucoup plus facile ensuite de s'investir dans des domaines pluriels avec plus de réussite. Dans des sports plus confidentiels, c'est beaucoup plus délicat et beaucoup plus difficile.
Oui, eux, ils ont les réseaux, et puis leur image va aussi
améliorer. Les réseaux, les rencontres.
Exactement. Et alors, comment est-ce que vous expliquez les réticences des employeurs face à des sportifs de haut niveau qui ont quand même justement fait la preuve de leur ténacité, par exemple?
Ça a été dit hein, un petit peu dans les témoignages. Hein. Il y a plusieurs choses. Il y a déjà une suspicion d'investissement excessif dans le sport, qui peut poser problème à un employeur en termes de disponibilité donc de la personne. Il y a le fait qu'ils ont des fois des niveaux d'études un peu inférieurs, ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs. Statistiquement, ils ont plutôt des niveaux d'études qui sont supérieurs à la moyenne des Français sur les mêmes générations. Mais ils arrivent plus âgés hein, sur le monde du travail. Et ensuite, ils ont peu d'expérience. Si tant est que la pratique sportive de haut niveau ne soit pas une expérience en tant que telle.
Guillaume Batin.
Oui, est-ce que vous faites une différence dans votre étude sur la reconversion ou la retraite des sportifs et sportifs para? Parce que eux, en général, gagnent pas leur vie ou très mal, n'ont pas cette médiatisation, n'ont pas ce statut que peuvent avoir des Phelps ou des Federer, et ils ont l'obligation de survivre, de vivre d'une autre activité en
Bien
parallèle
sûr.
De leur activité sportive.
Alors, j'ai pas des données très précises encore sur les sportifs para, mais toutes les études que je connais bien, parce que j'ai travaillé aussi sur le parasport, montrent que oui, les difficultés sont accrues pour les parasportifs en termes de déjà ressources pendant la pratique, nécessité donc d'avoir un emploi en parallèle, sachant que les personnes en situation de handicap ont aussi des difficultés dans le monde du travail. Donc en fait, il y a une multiplication des difficultés. Donc il y a beaucoup de variables qui interviennent dans, si vous voulez, le degré de difficulté qu'on rencontre. Donc le fait d'être parasportif, effectivement, multiplie les difficultés, mais le genre aussi hein, est un élément qui intervient beaucoup hein, dans l'insertion professionnelle. Et paradoxalement, et c'est ce qu'on voit pour le parasportif, les femmes anticipent beaucoup plus leur reconversion parce qu'elles ont moins de... elles ont moins de contrats publicitaires, elles sont moins accompagnées et souvent elles ont des ressources qui sont bien inférieures à celles des hommes à niveau égal de performance. Donc ça oblige à une anticipation et donc à une reconversion et un niveau d'études et une insertion professionnelle qui est pensée bien en amont.
Les trajectoires des anciens sportifs de haut niveau sont très diverses, avec de fortes inégalités. Est-ce qu'elles reflètent les inégalités qui existaient déjà avant leur carrière sportive, ou est-ce que cette carrière fait bouger les lignes ?
Eh bien, en fait, ce qui ressort de notre enquête, pour l'instant, c'est qu'en fait, il y a quand même un sentiment d'ascension sociale de 2/3 des sportifs que nous avons interrogés par leur pratique sportive de haut niveau. Donc, une capacité à s'insérer de façon assez satisfaisante. Et les... Bon, alors évidemment, les statistiques gomment les différences individuelles, mais en termes de revenus moyens, en termes de qualité d'emploi, eh bien, les résultats sont plutôt plus positifs qu'en comparaison avec des personnes qui ne seraient pas dans une pratique de haut niveau. Donc, il y a un effet quand même positif sur les trajectoires globales, professionnelles, des anciens sportifs de haut niveau que l'on peut observer statistiquement à partir de l'échantillon qui est quand même très important puisque c'est plus de 2000 personnes dans des fédérations extrêmement différentes. Mais il y a des différences très fortes selon l'activité sportive, selon le genre, selon le fait qu'on soit para-athlète ou pas. Et ça, c'est très important de le souligner.
Alors, il existe un statut de sportif de haut niveau depuis, je crois, 1984 et il a été revu en 2015 pour lutter contre la précarité des athlètes pendant leur carrière et aussi au moment de leur reconversion. C'est un statut qui offre des avantages. Il est vraiment protecteur ?
Protecteur. Donc, en fait, ça s'est beaucoup amélioré. C'est pour ça que les témoignages des enfin, c'est vrai, du cycliste qui s'est arrêté en 97-98. Depuis, beaucoup de choses ont été faites. Et c'est vrai que nous, dans notre échantillon, on a tous les âges. Et selon les générations, l'accompagnement est très différent. Oui, il y a des choses qui sont faites. Il y a une obligation pour les fédérations à accompagner, donc, les sportifs dans leur reconversion et d'anticiper cette reconversion. Même si parfois, bon, il y a quand même de l'hypocrisie et une incapacité à construire vraiment ce double projet. Ça a été bien montré à travers de nombreux exemples, mais il y a un statut protecteur, il y a des aides, il y a des écoles dans lesquelles on peut rentrer sans concours, il y a la question de la retraite des athlètes de haut niveau aussi qui a été prise en charge depuis ces années-là. Donc oui, il y a des cellules d'accompagnement, les choses ont beaucoup progressé et sur les générations récentes, les choses sont très différentes. Mais tout de même, il y a quand même une difficulté d'assurer vraiment et d'accompagner les athlètes dans leur double projet, c'est-à-dire être capable de leur faire faire des études et les études qu'ils ont choisies tout en s'entraînant. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et même s'il y a des accords, il y a beaucoup de choses, mais beaucoup d'athlètes sont en difficulté quand même quand un gros tiers quand même est en difficulté dans l'enquête qu'on fait pour mener ce double projet et ont beaucoup de regrets sur la capacité et sur l'accompagnement qu'ils ont pu avoir dans ce domaine-là.
Et ils regrettent parfois aussi qu'on ne leur ait pas donné l'opportunité de faire telle ou telle formation. En fait, le choix est quand même relativement limité.
Oui, ça, le choix est limité. D'ailleurs, quand il y a des pôles d'entraînement, souvent, eh bien, ils sont formés dans une filière parce qu'il y a un accord avec une école, un établissement, un BTS nutrition pour les rugbyman de tel club, la formation en activité physique adaptée pour les rugby girls de tel club, etc. Donc oui, il y a des filières, des accords. Qui contraignent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a remarqué, c'est-à-dire que les choix sont contraints et les perspectives ambitieuses d'études, faire médecine, etc., ça reste très rare et souvent les projets sont revus à la baisse. J'ai voulu faire ça, mais finalement, on m'a dit qu'il fallait mieux que je fasse ça parce que c'était compatible avec ma pratique sportive. Ça, c'est des témoignages qu'on a extrêmement souvent. Mais néanmoins, il y a quand même une forme, dans les entretiens et dans l'enquête, on a quand même une assez grande satisfaction, finalement, du parcours au bout du compte. Voilà.
Et les fédérations, elles soutiennent les sportifs jusqu'au bout ?
C'est variable d'une... Alors, il y a une étude de Sophie Javerlia qui est assez connue, qui compare, par exemple, le tennis de table et l'escrime, et qui montre que dans ces deux fédérations, c'est très différent. Dans tennis de table, plus professionnel, on accompagne moins qu'en escrime, où c'est pas professionnel et où on accompagne davantage les sportifs dans leur insertion professionnelle. Donc, c'est très variable, même si beaucoup de progrès ont été faits depuis, je dirais, les 20 dernières années.
Merci Cécile Collinet. Guillaume Batin a tourné le grand reportage de cette semaine.
La retraite, ultime épreuve pour les sportifs de haut niveau. Réalisation, Alison Vicrobeck et aujourd'hui Annie Bro. Paul Guigues était à la technique. Documentation, Sophie Cheblin, Rodolphe Meunier et Véronique Le Faller. Vous retrouverez cette émission de la rédaction sur l'appli Radio France et sur franceculture.fr. Et nouveauté de la rentrée, Grand Reportage est aussi présent dans les matins, du lundi au vendredi, sous forme de série.